Salut la gang, bienvenue à ce troisième épisode de Femmes de fer. Est-ce que vous adorez la bouffe ou écoutez des shows de cuisine? Si oui, vous devez absolument connaître La Petite Bête sur YouTube. Derrière ce nom de plus en plus populaire qui a maintenant plus de 70 000 abonnés sur la chaîne, se retrouve Manon Lapierre. Je connais Manon depuis plusieurs années, disons que c'était dans notre ancienne vie. Elle était en charge des relations publiques d'une grande multinationale pendant de nombreuses années. Après quelques moments de réflexion, elle a décidé de faire le pari que YouTube, ben, c'est la place où il faut être absolument. Elle nous explique son parcours et comment elle a réussi à bâtir une marque aussi solide.
Bienvenue à Femmes de fer, le podcast qui vous aide à atteindre vos rêves les plus fous. Je suis votre animatrice Sophie Momini, rédactrice, productrice et mompreneur qui veut toujours tout connaître sur tout. Je vous invite à vous joindre à moi chaque semaine où je m'entretiens avec des femmes inspirantes. Chaque jour, elles atteignent leur plein potentiel et elles vous donnent leurs secrets pour vous aider à réaliser vos objectifs. Vous êtes prêtes? Let's go!
Bonjour Manon!
Bonjour Sophie, comment ça va?
Ça va bien, je suis tellement contente de t'avoir en entrevue aujourd'hui parce que, tu sais, je dois avouer quelque chose Manon, là. Depuis que tu es dans ma vie, ça fait plusieurs années parce qu'on se suit depuis très longtemps, je t'ai toujours regardée comme quelqu'un d'incroyable, qui a tellement de ressources, qui a tellement de connaissances et qui a de la drive en s'il vous plaît. Puis quand j'ai parti mon projet, je t'ai tout de suite mis en haut de ma liste parce que je me suis dit Manon a tellement de richesses et de choses à dire. Alors, je voulais juste te dire que je suis vraiment, vraiment contente de t'avoir en entrevue aujourd'hui.
Je suis très flattée, franchement, c'est gênant.
Pour ceux qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas, Manon, peux-tu juste m'expliquer un peu qu'est-ce que tu fais présentement?
Avec mon conjoint, on est devenu YouTuber, blogueur, culinaire à temps plein. En fait, culinaire et famille, on est à temps plein depuis bientôt 2 ans.
Moi, il faut dire que quand je t'ai connue, t'étais au niveau des RP, des relations publiques. En fait, t'es un visage quand même important au niveau des relations publiques. Ça faisait combien de temps que t'étais dans tout ce milieu-là, que t'étais bien impliquée?
Oui, effectivement, j'ai fait une énorme transition de vie parce que ça faisait 16 ans que je travaillais pour Procter & Gamble, donc en multinationale. Moi, après mes études, j'avais fait les HEC en marketing. J'avais toujours suivi un parcours j'étais très prometteur. Je travaillais chez IBM pendant 5 ans, après ça chez PG. Donc, toujours des grandes, grandes multinationales. Et chez PG, ça faisait plus de 10 ans que j'étais en relations publiques. Donc, je travaillais avec des médias, des blogueurs, des YouTubers. Et je représentais toutes les marques de PG au Québec avec 3 agences de relations publiques et je ne sais plus combien de coordonnateurs de relations publiques.
Fait que toi, c'était un chemin naturel là, d'être aux relations publiques. Pour toi, dès le départ, est-ce que tu te lances là-dedans tout de suite avec tes études et tout?
Non, en fait, j'ai étudié en marketing et quand j'étais jeune, j'ai toujours beaucoup aimé cuisiner. J'ai toujours adoré ça, mais si on retourne à début de l'année 90, c'était pas un métier cool, cuisiner ou devenir chef. C'était pas quelque chose vraiment de bien vu. Je veux dire, personne qui avait des tattoos puis des chefs cool puis les émissions de télé, c'était peut-être des gens un peu plus vieux qui nous parlait pas nécessairement. Donc ça, j'ai jamais pensé à ça plus de 2 secondes, puis je savais pas dans quoi aller. Mon père m'a dit, ben si tu sais pas quoi faire dans la vie, va-t'en d'invente parce qu'il y aura toujours besoin de vendeurs, tu sais. Ah. Fait que j'ai fait mon marketing pendant 3 ans au HEC et pendant mes études, j'ai commencé à travailler chez IBM et j'étais vendeuse en fait de mainframe chez IBM pendant plusieurs années. Puis là, première grande transition de vie, je réalisais que j'aimais pas ça. Pourtant, j'aurais dû savoir, mon père est en informatique, puis je m'étais dit, je sais juste qu'est-ce que je veux pas faire dans la vie, c'est travailler avec les ordinateurs. Finalement, c'est exactement ce que j'ai fait parce que j'avais une job payante, tu sais, le jour 1 après mes études, puis je travaillais déjà là, donc c'était comme naturel. Fait que non, après ça, je suis rentrée chez Procter & Gamble, une énorme compagnie aussi. Et au début, c'est drôle parce que mon poste s'appelait gestionnaire de compte influenceur. Tu sais, le mot influenceur qui était à mode de nos jours. Ouais. Moi, j'ai fait ça en 2001.
Ça impliquait quoi en 2001, les influenceurs?
C'est encore plus bizarre parce qu'en fait, j'étais pour les marques Yams et Canuba, les marques de nourriture, des aliments pour chiens et chats. Et les influenceurs chez les chiens et chats, ben c'est des vétérinaires, c'est des éleveurs, c'est les chiens de douane, les bureaux de police qui nourrissent leurs chiens, c'est tous les professionnels. C'est eux qui étaient les influenceurs. Puis il n'y avait pas de médias sociaux dans ce temps-là. Fait que c'était vraiment, je travaillais là-dedans, puis j'organisais les compétitions, puis j'étais en charge des médias. Puis c'était un drôle de métier. Plusieurs années à faire ça, en fait, j'ai appliqué sur le poste de relations publiques parce que la personne qui faisait ce job-là, moi, j'avais travaillé avec dans des trucs dans mes marques à moi et je me disais, mon Dieu, un jour, j'aimerais ça faire ça. Mm-hmm. Alors voilà, mais c'était pas du tout naturel. J'avais pas étudié en communication, mais ben, pas du tout. Ça reste qu'il y a quand même un...
C'était le milieu quand même, là.
C'est ça, exactement. Et les relations publiques, ben c'est sûr qu'on travaille beaucoup avec les marques. Donc maintenant, ça me donne un atout dans ce que je fais parce que j'ai quand même une compréhension non négligeable de ce qu'une marque, une compagnie cherche à atteindre comme objectif, c'est quoi leur langage. Puis, tu sais, il y a vraiment un clash entre justement le domaine des influenceurs, chose que je ne veux pas jamais m'auto-proclamer influenceur. J'aime pas ce titre-là du tout, du tout, du tout. Il y a justement une incompréhension. Tu sais, puis moi, j'essaie de combiner tout ce bagage-là des deux côtés.
Oui, parce que là, pendant plusieurs années, tu as représenté toutes les marques de Procter & Gamble, donc tu les mettais de l'avant avec les journalistes et tout ça. J'imagine que ça s'est développé tranquillement. Est-ce que toi, tu les as vus arriver, là, les influenceurs, et que tu as commencé à travailler avec eux dans le temps?
Vraiment, oui. Ouais. Moi, j'ai vu les blogueurs d'abord. C'était spécial dans ce temps-là parce que si on retourne plus de 10 ans en arrière, là, quand les premiers blogueurs au Québec sont arrivés, tu sais, il fallait même être c'était pas évident pour les événements non. Parce que les journalistes traditionnels voulaient pas être mixés avec les blogueurs, puis il y avait un certain snobisme.
Oui, parce que moi, j'étais du côté, en fait, du journalisme traditionnel. Moi, je faisais partie du magazine Clin d'œil. Mais étrangement, moi, je travaillais dans le web, donc j'étais prise entre les deux. Puis moi, je me rappelle d'avoir vu ça arriver. D'un côté, les journalistes se disaient, mais c'est quoi ça, des blogueurs? T'sais, ils comprennent pas notre façon de travailler, nos besoins. Fait dans les événements, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Donc, moi, je me rappelle de ça, où on voulait pas nécessairement que les blogueurs soient là. Mais moi, de l'autre côté, en tant que fille du web, j'étais comme, non, mais c'est cool, c'est une nouvelle façon de parler, ça approche du nouveau monde, faut s'intéresser à ça. Fait que c'était vraiment bizarre. Moi, j'étais comme prise en fait. Puis je me rappelle d'avoir eu des conversations avec les relationnistes de dire, mais comment vous faites pour gérer les deux bords? Parce que il y avait vraiment, au début, c'était quand même quelque chose. J'imagine que maintenant, les relationnistes se sont vraiment bien adaptés, ils comprennent mieux, en fait, toutes les demandes de tout le monde, autant au niveau des influenceurs de multiplateformes que des journalistes, que des besoins au niveau des professionnels aussi. Mais c'était quelque chose, c'était l'arrivée des blogueurs dans le
temps. Ouais, fait que j'ai vu ça arriver, puis là, après ça, tranquillement, pas vite, ça a vraiment commencé à prendre de l'ampleur. Puis on voyait, en fait, que les journalistes traditionnels, la télé, les magazines, il y avait des coupures, là. Tu le sais, qui était dedans. Là. C'était comme la charcuterie, là. Ça passait, tout le monde y passait. Et là, tranquillement, pas vite, il y a beaucoup de journalistes qui devenaient blogueurs. Et là, on a commencé à voir percer les médias sociaux, Instagram, Facebook, une présence là-dessus qui était où on voyait vraiment qu'il y avait un impact au niveau des achats, des consommateurs, des gens qui suivaient ces gens-là puis qui avaient vraiment confiance dans leur opinion. Puis après ça, bien évidemment, les YouTube aussi comme plateforme. T'sais, fait que tout ça, moi, je le voyais. Évidemment, si je travaillais avec tout ce beau monde-là, puis j'avais des décisions à prendre en termes de qui signer, combien d'argent qu'on avait à donner, puis comment on allait faire ça. Puis à un moment donné, j'ai eu un flash. On était... Mais tu sais, j'étais au début de la quarantaine. Fait que donc ça, c'est ça, c'est pour les gens qui écoutent, ils comprennent peut-être pas que le parcours, si tu n'as pas fait tes calculs, là, j'ai fait 20 ans de corpo, donc j'étais au début de la quarantaine et là, j'arrivais, il y a quelqu'un qui m'a dit, Manon, puis ton bilan de la quarantaine, tu sais, puis là, j'ai fait comme bilan, tu sais, là, j'étais comme traumatisée, puis là, ça commençait à me fatiguer, puis là, je me disais, ben c'est quoi mon bilan, tu sais, puis là, les grandes questions, puis c'est quoi mon purpose dans la vie, puis qu'est-ce que je fais, puis une chose que ça faisait vraiment longtemps, tu sais, depuis quasiment tout le temps, les gens me disaient « Manon, tu devrais avoir un blog en cuisine ou tu devrais avoir des livres de cuisine parce que t'es tellement bonne puis je suis tellement maniaque. » À un moment donné, j'étais en meeting à Toronto et on a Google qui qui est YouTube, en fond. Donc, ouais. Ils sont venus nous présenter. Il se passait avec YouTube, qui était en pleine explosion. Puis là, on parle de 2014. Il y avait des vedettes YouTube qui étaient rendues des vedettes plus connues et plus respectées que des vedettes de télé. Tu sais, puis qu'il y avait un flip qui était en train de se faire sur le marché. Puis on dirait qu'à ce moment-là, j'ai eu comme un flash. Tu sais, je me suis dit, mais pourquoi que je ferais pas comme une chaîne YouTube cuisine? Le bagage marketing est entré, puis j'ai commencé à faire des recherches, puis j'ai regardé qu'est-ce qui existait au Québec, puis honnêtement, tu sais, les gros, c'était Ricardo, puis trois fois par jour. Les deux étaient ni l'un ni l'autre vraiment très présents sur YouTube. Ils étaient là, mais pas très présents. Et il n'y avait pas grand-chose sur YouTube en cuisine. Tu sais, il y avait plein de beauté. Moi, je travaillais avec beaucoup de YouTubeuses beauté. En fait, quand le flash m'est arrivé, je me suis mis à remplir un cahier de toutes les idées de chroniques vidéo que j'avais en tête, tu sais, ou de recettes que j'aurais le goût de partager. Puis là, j'ai rempli comme deux pages pleines. Là, je me suis dit, mon Dieu, je manquerais pas de contenu.
Fait que là, est parti. Ça, c'était en quelle année à peu près?
Ça, c'était en 2014. Donc, je suis rentrée à la maison de ce meeting-là, puis j'ai dit à mon chum, qui est le père de mes enfants et mon conjoint, mais c'est, on n'est pas mariés, donc je l'appelle encore mon chum, ça restera toujours mon chum, peu importe. Mais toujours est-il, je lui ai dit, ça tente-tu qu'on lance une chaîne YouTube? Tu sais, moi, j'aimerais mieux le faire avec toi, tu sais, au niveau de la caméra, puis on fasse ça ensemble. Puis là, on a commencé à s'équiper. Ça prend pas grand-chose, mais il faut quand même s'équiper. On avait votre caméra, il nous manquait un ordi, des choses comme ça. On a lancé le blog La Petite Bête et la chaîne La Petite Bête en même temps. Et ça, ça s'est fait le 22 février 2015. Donc, je travaillais toujours à temps plein, mon chum aussi. Et on s'est dit, moi, je lui avais dit dès le départ, parce que ce que j'avais vu dans, au niveau des YouTubeurs et certains blogueurs, c'est que souvent, les gens se découragent. Tu sais, au début, tu es super animé, tu as plein d'idées, tu veux partager tout ça, tu es tout excité, tu le fais. Puis là, à un moment donné, tu réalises qu'il y a 12 personnes qui ont regardé ta vidéo, tu dis, ouais.
Et l'effort que tu mets là-dessus, en passant, ouais. Est incroyable. Là. On s'entend?
Oui, oui. Oui.
Puis, je veux juste dire, non, en arrière, là, combien de temps ça te prend à faire une capsule?
On parle de probablement une journée complète par capsule et parfois plus. Puis, on est deux, là. Là, oui. À deux personnes. Parce que moi, s'il y a des tests de produits, je dois développer la recette, je dois l'écrire. T'sais, je ne fais pas juste sortir une recette puis dire, oh, on espère qu'elle va fonctionner.
Oui.
Après ça, ben, il y a le montage qui est très, très long. Et une fois qu'elle est en ligne, la mise en ligne est très longue. On parle d'une heure et demie, souvent d'optimisation. Et suite à ça, c'est la gestion des médias sociaux. Puis ça, je ne le calcule même pas dans la journée.
Dedans,
ça, okay. Les gens... Oui, c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas, qui s'imaginent qu'on branche la caméra, on pèse on. Parce qu'il y a des vidéos que c'est peut-être plus cette allure-là. Mm-hmm. Mais il y a toujours énormément de travail. Tu sais, moi, j'ai toujours mon chapeau de... justement, de mes années corpo où on engageait des équipes pour faire une pub de shampoing, là. Écoute, c'était trois journées dans un studio, 45 personnes, un maquilleur, un coiffeur de New York, un styliste, des éclairages, etc., pour faire une pub de 15 secondes ou 30 secondes, tu sais. Puis ça, c'était normal. Alors que maintenant, quand on, tu sais, dans ce que je fais, si on dit, ouais, mais c'est long faire ça, on dirait que les gens sont comme, ben là, vous êtes, c'est juste vous deux dans une maison, arrête, là, tu fais juste ça, t'as le temps.
Puis toi, tu voulais t'assurer avec ton chum que vous alliez pas vous décourager au fil du temps, c'est ça?
C'est ça, oui, donc on en revient à ça. Fait que moi, je lui ai dit, si on se lance là-dedans, la seule condition, c'est qu'on en fait un par semaine, minimum, une vidéo par semaine à YouTube puis un article sur le blog, et on se commet pour 2 ans minimum. Fait que c'était ça ma condition. Dans ma carrière, j'étais rendue aussi avec une... C'était rendu un peu fou. Tu sais, je pense que c'est de plus en plus comme ça dans les grandes entreprises puis dans le monde corporatif en général. Mais tu sais, j'étais rendue littéralement avec 5 jobs à temps plein. Tu sais, ce que je faisais pour PG il y a 10 ans, qui était m'occuper de toutes les marques au Québec avec 3 agences de relations publiques, là, c'était 20 % de mon boulot, mais c'était le même boulot, là. Mais c'était 20 % supposément. De mon côté corpo, j'arrivais plus à performer comme avant. Puis je faisais des affaires qui, pour moi, n'avaient pas de sens. T'sais, ils commençaient à avoir un choc de valeur. Puis de l'autre main, plus on faisait des vidéos et tout ça, plus on réalisait qu'on était en train de bâtir quelque chose d'important, tu sais, où on se réalisait. Puis de ce côté-là, ben, tu sais, ce qui est arrivé, c'est que quand tu lances ça, c'est un petit peu comme un processus égoïste. Tu te dis, ah, ben, je vais m'exprimer, ça va être le fun, je vais faire ça, puis tatata. Rapidement, tu reçois des commentaires. Puis ça, c'est très différent de la télé ou du média traditionnel. C'est que tu reçois des commentaires dans l'instantané. C'est ça qui a fait la différence de dire, hey, attends, là, je suis en train de faire quelque chose. d'important. Tu sais, les gens me disaient « Oh mon Dieu, merci, tu sais, tu me fais du bien, j'aime ça t'écouter. » Puis tu sais, j'ai eu des gens qui m'ont dit « Tu sais, j'étais, ça fait comme des mois que je ne suis pas sortie de la maison, que j'avais plus d'appétit, puis ma vie va pas bien, puis je suis tombée sur toi. » Puis oui. Tu sais, ça me fait du bien de regarder tes vidéos, puis tu m'as redonné l'appétit. Finalement, j'avais trouvé mon X comme par hasard. Tu sais, il était comme là, on a sauté dessus, mais sans se dire « C'est ça qu'on va faire dans la vie, là. » C'est juste qu'on est... Puis là, de l'autre main, ben là, je commençais vraiment à être frustrée dans ce que je faisais dans le day-to-day, tu sais. YouTube continuait à grossir, à exploser, puis j'ai dit à mon chum, je dis « Écoute, moi, je pense que c'est soit qu'on saute sur le train puis qu'on met plus de contenu ou on va manquer le train, tu sais. » Mm-hmm. Puis c'était comme vraiment épeurant parce qu'on s'entend qu'on n'est pas, on n'a pas 21 ans, on a une hypothèque, on a des jumeaux jumelles de 12 ans, dont un garçon qui est handicapé, on a des autos, on a, tu sais, on a un train de vie, là, tu sais. Fait que c'était comme un espèce de saut un peu fou. On dit, tu sais, mon âme est en train de se dessécher, là, de l'autre bord. Là. on dirait que j'avais plus le choix.
Ouais.
J'ai quand, tu sais, fait que finalement, le 14 juillet, donc le jour de la Révolution française, les deux, on a laissé nos emplois. Et on s'est lancé à temps plein dans la petite bête. Ça fait 2 ans, donc c'était en 2017.
Hey, c'est fort, ça, Manon, là. Parce que non seulement toi, t'as laissé ta job, mais ton chum aussi. Puis les oui. deux, vous avez cru à votre projet tellement fort que j'imagine que vous avez eu des petits moments de « mais qu'est-ce qu'on fait là? »
Oh, oui, oui.
OK.
Ben, tu sais, moi, en fait, moi, j'étais rendue à un stade où je n'étais plus capable. Puis mon chum me supportait. Il a dit, tu sais, Manon, il dit, tu sais, on va s'arranger. C'est moi qui avais la plus grosse job, vraiment, des deux. C'est moi qui avais la carrière, le plus gros salaire. Puis il dit, tu sais, Manon, on va se débrouiller. Tu sais, à un moment donné, on ne peut plus. Tu sais, tu peux. Fait que finalement, moi, j'annonce mon départ d'APG. Puis là, ben, c'était comme ça. Lionel, lui, pour l'instant, il continue à travailler. Puis là, à un moment donné, Lionel, un mois après, tu sais, moi, j'avais annoncé, mais il fallait que je donne encore 3 mois à la compagnie.
Oui.
Il me dit, tu sais, j'ai pensé à ça, puis ça, c'est ridicule, tu sais, que tu fasses ça tout seul. Tu sais, moi aussi, je ne me réalise pas dans mon quotidien, puis je pense que... Puis là, je me suis dit, mais... La première pensée, c'était « Oh my God! » On n'aura plus aucun salaire, plus d'assurance, rien. Mais ma deuxième pensée, ça a été « Je suis qui, moi, pour y dire... » Moi, j'ai le droit, mais toi non.
Oui.
Ça se faisait comme pas, tu sais. Puis j'avais une peur énorme parce que ça fait comme 20 ans qu'on est ensemble. Puis je me suis dit, tu sais, là, j'ai dit oui, tu sais, à un moment donné, j'ai pris un verre de vin, deux verres de vin, puis là, j'ai dit, oui. OK.
C'est quoi le plan, là?
Puis là, je l'ai dit, par contre, j'ai dit, tu sais, c'est ça qu'il a fallu en discuter, parce que j'ai dit, on risque notre couple. Tu sais, quelque part, il faut oui. vraiment qu'on fasse ça de façon. Intègre, tu sais, selon nos valeurs, mais qu'on travaille bien ensemble, tu sais, il va falloir se parler si jamais ça va pas. Fait que, c'est ça, mais j'avais vraiment peur, là, tu sais, dans le fond de moi-même, là, j'avais une peur terrible, mais à partir du moment où c'était annoncé puis c'était fait, en même temps, là, il y avait comme une hâte. Une fois que tu as coulé le bateau, tu sais, c'est Tony Robbins qui disait ça, parce que justement, ça a été un des initiateurs de ce grand mouvement. Mm-hmm. J'étais allée 3 jours à Miami avec des copines, non, Palm Springs. Puis lui, il disait, tu sais, la meilleure façon d'arriver au succès, c'est de couler ce qui t'arrête, tu sais, de couler le bateau, puis après ça, tu n'as pas le choix de nager. Oui, on avait toutes ces responsabilités-là, mais on avait aussi une bonne gestion. T'sais, ce que j'ai fait, j'ai été chanceuse, j'avais des actions de PG, j'ai payé toutes les dettes, toutes, là. Et à part la maison. La maison n'était pas payée. Les autos payées, les roulottes payées, tout est payé. T'sais. Fait qu'à partir de là, je me suis dit, bon, ben, combien ça nous prend minimum pour arriver? On fait moins d'argent, mais on paye pas mal moins d'impôts aussi. Puis on a nos dépenses de maison, on travaille ici les deux, je veux dire, on filme dans notre cuisine. T'sais, tout ça, on n'avait jamais même déclaré nos dépenses d'affaires. Malgré le fait que ça faisait 2 ans qu'on faisait ça, là, genre les caméras, les ordis, on avait toutes les factures, mais on ne l'avait même pas fait, on n'avait pas le temps. T'sais, c'était comme pas une priorité.
J'espère que vous aimez l'épisode d'aujourd'hui. Avant de continuer, je vous invite à consulter le site web de Femmes de Fer où je vous ai préparé un e-book gratuit dans lequel vous avez 5 astuces pour savoir comment bâtir votre liste de courriels. Alors, si vous voulez pousser le sujet encore plus loin pour vous aider à bâtir votre entreprise, allez sur sophiem.ca/femme de fer podcast.
J'imagine que vous aviez un deadline de dire, ben écoute, là, si rendu là, ça marche pas, faut qu'on fasse quelque chose, ou pas du tout, tu t'es dit, non, let's go, on y va et on pense même pas à un plan B?
J'ai fait beaucoup de retraites de yoga, puis j'ai étudié avec Nicole Bordelot, puis elle disait, quand t'as vraiment peur d'aller vers quelque chose, la première question que tu devrais te poser, c'est quoi le pire qui peut arriver?
Mm-hmm.
Puis le fait de le regarder droit dans les yeux, ben souvent, tu réalises que t'as peur de la peur, mais tu sais, le pire qui pouvait m'arriver, là, c'est que ça marche pas, puis je retourne, mais mon expérience est toujours hyper valable, elle l'est encore plus s'il y a quelque chose, parce que non seulement j'ai une expertise corporative, mais j'ai une expertise, tu sais, les deux pieds dedans, là, du marché des influenceurs, des blogueurs, des youtubeurs, tu sais, un domaine qui est quand même très valable pour les marques. Je me dis, le pire qui peut arriver, c'est que je retourne travailler.
Mais là, rendu là, on peut se dire que, parce que moi, je t'ai suivi de la job corpo à maintenant YouTuber, on fait partie de la même communauté, tu sais, on se parle quand même une fois de temps en temps dans les événements, fait que j'ai vu vraiment ton évolution, puis depuis que t'as quitté, là, ta communauté a explosé, là. T'es rendu à combien d'abonnés maintenant sur YouTube?
Là, je regarde moins de près. Je pense qu'on approche de 70 000
environ. C'est incroyable.
Ouais. Oui, c'est fou, là. Puis tu sais, ce qui est le fun, c'est que nous, on est une croissance constante, perpétuelle et exponentielle, je dirais. C'est ça qui s'est passé.
Ouais.
Puis ça continue d'être ça. Parce qu'on parle à une audience réelle, tu sais, qui est du... tu sais, on a vraiment une courbe parfaite. C'est des vrais acheteurs, mais c'est pas du monde qui sont tout le temps devant YouTube. Ils le regardent, tu sais, mais selon leur propre horaire. Alors qu'il y a plusieurs chaînes YouTube qui parlent à des jeunes, des très jeunes. T'sais, moi, je regarde mes enfants, là, ma fille de 12 ans, je dis, il faut y dire, là, arrête de regarder des vidéos YouTube. C'est ça qu'elle regarde dans la vie. Là.
Oui. Fait que tu as vraiment monté ta communauté maintenant, autant sur YouTube que sur Facebook aussi, qui est quand même assez actif, si je ne me trompe pas.
Facebook, Instagram, c'est sûr qu'on n'a pas 70 000 là, sur ces deux-là. Malheureusement, Instagram, ça a été une de mes erreurs, ça n'a pas été de pousser Instagram tant que ça à nos débuts. Dans ces années-là, c'était des bonnes années d'Instagram, ça pouvait monter rapidement.
Oui.
Maintenant, l'algorithme fait que même ceux qui ont des très gros chiffres, ils ont de la misère, ils vont stagner. T'sais.
Ça a été quoi qui a fait que tu as une belle communauté engagée? Est-ce que c'est la constance d'être toujours là, rendez-vous après semaine après semaine? Est-ce que c'est votre façon de parler avec les gens, des lives que vous faites? Qu'est-ce qui fait que tu continues toujours à être engagée comme ça?
Moi, j'ai l'impression que c'est le d'être moi-même, d'être un peu partout, tu sais, puis je mets pas le même contenu nécessairement sur Instagram que Facebook, que sur YouTube, que sur... Fait que j'essaie d'aller chercher différentes communautés, différents endroits. On a réalisé que souvent, il y a des gens qui regardent nos recettes, tu sais, mettons, c'est une vidéo de poisson, puis ils disent, moi, je mange pas de poisson, mais je regarde ta vidéo parce que j'ai hâte de vous voir. Puis ça, j'en ai souvent, là. Tu sais, des gens qui sont comme, ils font juste nous regarder pour nous regarder parce qu'ils trouvent ça le fun.
Oui, mais c'est comme Ricardo, Manon. On regarde Ricardo parce qu'il a donc bien l'air le fun. Tu sais, ses recettes sont incroyables, mais si Ricardo est sympathique et le fun, donc c'est la même chose avec toi. C'est que tes recettes sont vraiment le fun et intéressantes, mais l'autre bord, comme je disais, moi, depuis le début, c'est que ton énergie avec ton chum et tout ça, vous avez vraiment une façon à vous de partager votre passion, vos intérêts. Fait que c'est probablement pour ça que les gens disent ça, c'est que vous avez une belle vibe aussi dans vos vidéos, puis vous êtes vrai. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir avant de commencer toute cette aventure-là?
J'aurais dû commencer plus tôt parce que j'aurais dû faire confiance à la vie. Puis à nos moyens, puis à notre expérience, au lieu d'écouter toutes les affaires qui pouvaient nous arriver de négatifs. J'ai zéro regret, mais comme zéro. Puis là, les seules choses, il y a des apprentissages valables, il n'y a rien qui est parfait, il n'y en a pas de vie parfaite. Heureusement que mon chum est là, puis ça fait longtemps qu'il me connaît. T'sais, il m'a vu dans ma première transition de vie. J'ai fait un burn-out, moi, quand je suis partie chez IBM, puis tu sais, carrément, là, t'sais, brûlé, là, puis sortir du lit. Puis, c'est lui qui m'a dit à un moment donné, il a dit, ça va pas, là. T'sais, il dit, tu commences à me rappeler la toi de cette période-là. Puis, il dit, tu sais, Manon, on va s'arranger. Ça vaut pas la peine, tu sais, on est des parents, ça vaut pas la peine de se brûler pour de l'argent, là.
Ouais.
On va s'arranger. Mon chum aussi, il est beaucoup plus heureux maintenant à faire ce qu'on fait. Puis, moi, je la gobe, l'anxiété des autres. Tu sais, quand quelqu'un n'est pas bien, là, ben, tu le sens partout dans une maison. Tu sais,
ouais.
Fait qu'à quelque part, que lui soit heureux et que moi, je suis heureuse, ben tout le monde est plus heureux dans la maison.
Ça
se fait tout seul. Fait que les stress que j'avais, je me disais, on va chicaner, on va pas s'entendre, il y a des affaires comme... Ben, pas tant. Tu sais, ça arrive, là. Puis il y a une façon de se parler, c'est délicat de travailler avec quelqu'un que t'aimes, là. Parce que moi, j'ai un petit côté perfectionniste, businesswoman, tu sais, que je... pour dire poliment, que des fois, il y a des affaires que je suis comme, non, tu sais, c'est pas comme ça que tu écrirais ce courriel-là ou, ouais, cette vidéo-là, je l'aime moyen. Ben je peux pas dire ça. Tu sais, il faut que je dise, j'aime beaucoup ce que tu as fait, là et là et là. C'est le truc, je le dis.
C'est quoi ton prochain grand défi avec la petite bête?
Écoute, j'ai tellement d'idées, là. Là, on a coupé, on était à 3 vidéos par semaine pendant pratiquement 1 an. Puis là, on commençait à réaliser qu'on manquait de temps pour faire de la prospection, pour gérer le monde, pour avoir des idées, pour étendre les projets. Fait que là, on est rendu à 2 vidéos par semaine. Je commence à faire des ateliers. Là, je commence à en faire. Je fais des conférences d'ateliers. Une des trucs qui me démarque, là, c'est comme ma niche, c'est le pain. Ma vidéo de pain maison va taper 1 million incessamment.
Wow.
J'ai des petits pains partout dans le monde. J'ai des gens en Chine qui font mon pain. J'ai des gens en Suisse qui font mon pain. J'ai des photos de pain à toutes les semaines, à tous les jours quasiment. Il y a quelqu'un qui a fait mon pain. C'est vraiment cute, là. J'ai des photos puis comme j'ai testé le pain de la petite bête puis je peux pas croire. Puis c'est une fierté immense de transmettre un savoir qui est si ancestral que savoir faire son pain. Là, on parle d'une base de l'alimentation de l'homme depuis des millénaires. Là. Peut-être un livre. J'aimerais pas ça. Ça justement, tu sais, je sais pas sur quoi. Livre de recettes, livre de pain, roman. Je sais pas, c'était mon premier rêve quand j'étais jeune d'être écrivaine. Tu sais, peut-être éventuellement aller dans une boutique en ligne, des produits gourmands, des outils gourmands, mes trucs favoris. Tu sais, c'est toutes des choses que j'ai tellement d'idées.
Mais là, Chanon, va falloir que vous soyez plus que 2, là. Avez-vous pensé à avoir des assistants? Est-ce que tu ressens ce besoin-là ou pas du tout?
Je joue avec l'idée, mais je vais te dire qu'une des raisons que j'ai choisi cette vie-là, c'est la liberté. Mais si je deviens une gestionnaire d'entreprise avec 50 employés, cette liberté-là, elle sera pas la même.
Mm-hmm. Question comme ça qui me vient à l'esprit, qu'est-ce que tes enfants pensent de ça?
YouTube, là, en partant, ils étaient comme, ben voyons, vous allez faire ça à temps plein. Leur première pensée, puis c'est cocasse, tu penserais pas à ça, c'est comment qu'on va faire avec l'argent.
Hein?
J'ai dit clairement, on a manqué à leur éducation.
Ils vont être bons financièrement, tes enfants, là.
Ben, faut croire, tu sais, à force que je leur dis, sais-tu combien ça coûte un iPad? D'avoir un meeting familial, puis de dire, là, il y a des affaires qui vont prendre le bord, puis il va falloir faire des choix éclairés dans ce qu'on achète, puis dans les expériences, puis... Mais en même temps, ça se balance, tu sais, puis c'est correct. Ils nous trouvent cool, mais pas assez cool encore.
Ah, yeah. Pour terminer, Manon, j'ai le goût de te demander, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, femme de fer?
Tu sais, le fer, là, ça peut fondre à haute température. Je pense que c'est une femme qui est forte, mais qui est quand même connectée à sa fragilité et à ses besoins profonds. Ça, c'est important parce que je pense que jadis, je me répétais sans cesse que j'étais une femme forte. C'était dans mes mantras. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que c'est beau d'être fort, mais pas au détriment de son soi profond.
De son bonheur.
Voilà.
Absolument.
Exactement.
Merci beaucoup, beaucoup, Manon, pour cette magnifique entrevue. En terminant, c'est quoi la meilleure façon pour te contacter?
info@lapetitebette, donc lapetitebette.com et non la petite bête, là. La petite bête.
La petite bête. Puis sinon, bien, on te suit
ça,
sur
c'est
YouTube.
Courriel. Sinon, suivez-nous sur Facebook, Instagram, YouTube. C'est tout sous La Petite Bête. Abonnez-vous, faites-nous des commentaires. Si vous avez des questions, on est là.
Génial. Merci beaucoup, Manon. Dis bonjour à ton chum et à ta famille de ma part.
Même chose à toute la famille.
Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous êtes incroyablement inspirés pour vos projets. Si ça vous intéresse de garder contact, rendez-vous sur Instagram sur le compte de Femmes de Fer ou abonnez-vous à l'infolettre. Et si vous aimez l'épisode, vous pouvez laisser un commentaire. C'est ce qui me motive à trouver les meilleures femmes de fer pour vous. Et je vous dis À la prochaine!